Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM. L'enregistrement de la conversation se tient à Marseille, dans l'appartement d'une de nos deux invités. Le long d'une série de 5 émissions, Françoise Guichard et Jean-Paul Brighelli dérouleront leur fil du fer. Ils sont amis depuis 25 ans. Cela tombe à pic. Aujourd'hui, je vous interrogerai parler d'amitié et de ses conséquences dans votre parcours, l'accomplissement de vos projets et la construction de votre personnalité. Bonjour Jean-Paul, bonjour Françoise. Françoise, commençons comme ça. Nous sommes chez vous. Chez vous, c'est aussi le lieu où vous accueillez vos proches et vos amis. Quels sont les objets, les meubles, les plantes qui, sous notre regard ou dans d'autres pièces, renvoient à votre monde intérieur, de même que, peut-être, à vos activités, activités passées et présentes, professionnelles, associatives, etc.
Alors d'abord ma bibliothèque, moi jamais sans ma bibliothèque, il y en a des mètres linéaires dans mon salon, dans mon bureau, enfin il y a des bouquins partout, ce qui d'ailleurs me pose problème le jour où, j'aurais cassé ma pipe et serais à la droite du père en train de jouer de la lyre revêtu d'une grande robe blanche. Je pense aussi que mon fils, qui par ailleurs adore la lecture, se demandera quand même ce qu'il va faire de ma bibliothèque, ça c'est la première chose. La deuxième chose, bah, c'est les ours. Vous remarquez, il y a des ours partout chez moi, des ours en peluche, des grands, des moyens, des petits, des ours en métal, des ours en porcelaine, en faïence, enfin, en tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est une passion qui remonte à ma tendre enfance. Là, je pense que... Ou alors j'étais ours dans une vie antérieure, ça c'est une deuxième possibilité. Et puis la troisième chose, c'est cette statue que vous voyez là, et qui est intitulée Dionysos ou Bacchus indien, c'est un plâtre, qui était dans la salle de dessin de mon ancien établissement, enfin du premier établissement où j'ai exercé, et le professeur de dessin, pardon, on ne dit plus professeur de dessin, on dit professeur d'art plastique, ce qui change tout, avait décidé de mettre à la jaille, comme on dit en Vendée, c'est-à-dire à la déchetterie, et donc j'ai sauvé Dionysos, le Dionysos en plâtre, qui en plus, vu qu'il a un certain âge et un certain nombre de bugnes, en particulier sur le nez, alors je l'ai couronné de lierre, c'est Dionysos, hein, donc il faut absolument le couronner de lierre, et il est là pour me rappeler, au cas où je l'aurais oublié, que j'ai été professeur de lettres classiques pendant longtemps.
Comment avez-vous rencontré Jean-Paul, Françoise? Je crois que votre amitié a connu deux étapes.
Alors, deux étapes, je dirais non, parce que la première fois qu'on s'est vu, il m'a même pas vu, que je suis vexée. On était en prépa, donc en Hippocagne ou en Cagne, je sais plus exactement. Donc, vous voyez, ça nous fait 1971-1972, ce qui ne nous rajeunit pas. Et c'était l'époque où les prépas d'Aix et de Marseille se fréquentaient. Donc, il y avait une fête à Marseille où j'avais été traînée par des amies communes, Monique, Dominique, Anne. Et donc, il y avait là un garçon extrêmement mince, manifestement très sollicité. Et moi, je me souvenais très bien de lui, mais lui, bien entendu, il ne m'a pas vu. C'est vexant. Et je l'ai retrouvé à sauver les lettres, donc ça devait être en 1999 ou quelque chose, ou en 2000, je sais plus exactement, à une réunion de sauver les lettres, je crois que c'était à Paris, je voudrais pas dire de bêtises, ouais c'est ça, c'était à Paris, à l'époque donc où le collectif Sauver les lettres s'était monté dans l'espoir de, comme l'intitulé l'indique, de réhabiliter et de maintenir l'enseignement des lettres en France, qui déjà, c'était quand même, bon, c'était sous Allègre, n'est-ce pas, en 98, l'abomination de la désolation, où on essayait, enfin on croyait encore qu'on pouvait inverser la tendance.
Françoise, qu'est-ce que vos amis savent de vous, de votre formation, de votre parcours intellectuel, professionnel, associatif? Et que les auditeurs du fil du fer, qui n'auront pas tapé votre nom sur un moteur de recherche, apprendront par votre réponse.
Oui, merci. Il n'y a pas grand-chose sur les moteurs de recherche si on tape mon nom. Ou plutôt, il y a le nom, j'en profite d'ailleurs pour lui faire coucou, de mon oulipienne homonyme, puisqu'il y a une dame à l'Oulipo qui s'appelle également Françoise Guichard, qui a publié plusieurs livres tout à fait sympathiques, des poèmes, des collages oulipiens. C'est une amie d'Hervé Le Tellier, etc. Et donc, il m'arrive souvent d'avoir des félicitations des copains qui me disent « Ah, on a eu ton nouveau bouquin !» Ben non, c'est pas moi, c'est Ballot, c'est mon oulipienne homonyme. Donc, sur Glouglou, il n'y a pas grand-chose sur moi, j'ai envie de dire « heureusement ». Autrement, qu'est-ce que mes amis savent de moi ? Ben, ceux qui m'ont vu faire, ceux qui m'ont vu dire, et puis, j'ai mon jardin secret comme tout le monde quand même.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont vu faire et qu'est-ce qu'ils vous ont vu dire et qui est en lien avec votre parcours, votre métier ?
Ils m'ont vu faire, ils m'ont vu enseigner, ils m'ont vu militer, ils m'ont vu quelquefois en difficulté familiale, mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Ils m'ont vu prendre la parole, beaucoup, agir un peu, et enseigner pour certains de mes amis qui sont d'anciens étudiants.
Jean-Paul, même question. Qu'est-ce que vos amis savent de vous, de votre formation intellectuelle et professionnelle, qui vous a permis de devenir professeur, essayiste, romancier, scénariste, auteur de manuels scolaires, etc., etc., et que vous souhaitez faire découvrir au micro du fil du fer ?
Bah, tout est écrit sur Wikipédia. Alors, c'est pas moi qui ai monté la fiche Wikipédia. Je ne sais trop qui l'a fait. J'ai pas cherché d'ailleurs. C'est globalement vrai ce qui est écrit dessus. Il y a une ou deux inexactitudes qui ont été rajoutées par des gens qui essaient de se hausser en me posant le pied dessus, mais comme d'habitude. Mais ça n'a aucune importance. Donc tout ce qui est écrit dessus, depuis ma date de naissance jusqu'à ma date de décès, est vrai. Voilà, pour la date de décès, il y a un blanc pour le moment, mais elle est prévue. Voilà. Ma formation, classe prépa à Marseille, au lycée Thiers, école normale supérieure de Saint-Cloud, agrégation, enfin le parcours vraiment bateau de n'importe quel étudiant qui travaille un peu. Enfin, je travaille pas beaucoup quand même, globalement. Alors, ce qu'il n'y a pas, par exemple, ce sont les hésitations sur le métier. Quand j'ai passé le bac, alors j'ai passé le bac à la fin de la première, en candidat libre, je me sentais pas de gaspiller une année en terminale. Et j'ai hésité entre trois voies, qui étaient de faire soit médecine. À l'époque, on pouvait très bien faire médecine en sortant d'une filière lettres. Soit de la cuisine, professionnellement. Soit prof, puisque je vous rappelle, à l'époque, Parcoursup n'existe pas, etc., donc il faut déposer des dossiers. Alors, de la médecine, ça me tentait beaucoup. Hein. Je me voyais très bien psychiatre, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que en médecine, avant la cinquième année, vous ne gagnez rien. Or, j'avais une envie frénétique d'être indépendant, et la vraie indépendance, c'est financièrement. Hein, voilà. Pas parce que vos parents vous donnent des sous pour les dépenser dans des soirées occultes, mais parce que vous gagnez votre vie. La cuisine, c'était une passion lointaine, hein, et c'est toujours une passion, à l'heure actuelle. J'ai vraiment pensé plusieurs fois m'arrêter pour ouvrir une gargote quelque part et servir de la daube de bœuf aux amis. Hein. La cuisine à l'époque, il n'y avait quasiment pas d'école de cuisine en France, ou très très peu, ou alors pour les petits mitrons hein, uniquement. Il fallait aller en Suisse, ça coûtait les yeux de la tête, mes parents n'avaient absolument pas les moyens, c'était des petits fonctionnaires. Restait le professorat. Alors le professorat, c'était très simple. Il s'agissait donc de réussir les concours de l'enseignement. La filière idéale, c'était de faire une prépa. et tant qu'à faire une prépa, réussir l'oral sup. Réussir l'oral sup, ça me donnait automatiquement un salaire. Donc à bac plus 2, on pouvait avoir un salaire. J'ai même eu un salaire à bac plus 1 parce que j'ai passé un concours qui n'existe plus actuellement, qui s'appelle l'IPES, que les gouvernements actuels seraient... Voilà, bien inspiré de rétablir. Et donc, à bac plus 1, je gagnais 90% du SMIG de l'époque. Ce qui était bien pratique, ça me permettait de vivre pendant 15 jours, les 15 derniers jours étant... il n'y en avait pas assez, quoi. D'où la nécessité de réussir normal sup, où j'aurais gagné un peu mieux ma vie. Voilà. Tant qu'à être un normal sup, autant réussir la grègue. C'était une, plus ou moins une formalité vu la façon dont on avait été formé. Et puis après, parcours de prof. Alors, c'est peut-être ma seule particularité par rapport à des gens de ma génération qui très vite n'ont plus été profs. Se sont retrouvés dans le journalisme, dans l'actualité, dans la publicité, dans l'administration, etc. Moi, j'avais une vraie vocation à rendre ce que l'école m'avait donné. Ça, c'est le point de base, et ça a duré 45 ans, ce qui fait un bail. Alors, je le dis là à ceux de vos auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans l'enseignement et qui se demandent s'ils ne préféreraient pas faire terrassier ou bonne à tout faire. C'est un métier un peu exigeant, certes, mais qui n'est pas dépourvu d'intérêt.
Revenons au sujet de cette émission, c'est-à-dire l'amitié. L'amitié, quelle définition et quelles implications dans vos vies? Que répondez-vous et quelle place a-t-elle dans votre vie, vie physique, vie intellectuelle, vie spirituelle, Françoise et puis Jean-Paul?
Oui, l'amitié et la filiale, et ça y est, je vais faire le prof de grec de seconde. C'est absolument... je n'ai pas beaucoup d'amis, quand le dire tout de suite, mais les amis que j'ai, je les ai depuis très, très, très longtemps. Mon ami, je ne vais pas dire ma plus vieille amie, ça pourrait être mal interprété. Mon amie de la plus longue date, on s'est connus, elle était en Hippocagne et moi en Cagne, et ça fait donc 52 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. J'ai également conservé des amis de l'époque où je dépérissais dans le sud Vendée, donc là, c'est des gens pareils que j'ai connus à la fin des années 70, ça fait un bon bail aussi. Jean-Paul, ça fait 25 ans, ça commence à faire bien aussi, et donc... pour moi, j'en ai pas beaucoup d'amis, mais c'est vraiment, je suis en train de dire une banalité, hein, mais c'est vraiment important. Autrement, j'ai oublié la suite de la question, désolé.
Alors, la place de l'amitié dans votre vie physique, spirituelle, intellectuelle,
hein. Monsieur, moi je suis plutôt a priori quelqu'un de solitaire, ça me dérange pas d'être toute seule, je peux passer des journées toute seule à bouquiner ou à travailler de mes mains ou à faire la cuisine, ça c'est aussi une passion que je partage avec Jean-Paul, mais les amis, bon là encore, Georges Brassens, Françoise Hardy, et les Beatles, n'est-ce pas, une petite aide de mes amis ou une grande, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et réciproquement. Je ne dis pas que j'ai toutes les qualités, mais je crois que je suis quelqu'un de fiable.
Et vous, Jean-Paul, alors, la place des amis et de l'amitié?
Vous rappelez Henri Tachan? Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence, un simple pavois, un où deux animaux se dépensent, etc. C'est à la fois consubstantiel et rare. À 20 ans, on a une foule d'amis. C'est là qu'on comprend petit à petit la différence entre un ami et un copain. Hein. Et puis, on fait le tri. Alors, le plus vieil ami que j'ai actuellement, ça fait 60 ans. On se supporte depuis 60 ans. Enfin, je veux dire, il a une résilience absolument extraordinaire parce que je suis pas facile à vivre. Ça, c'est une évidence. Deux, trois maximum. Il se trouve que la vie est en fait de ce qu'elle est, c'est-à-dire de mort. Les deux copains les plus proches avec qui j'ai beaucoup travaillé, etc., sont morts. L'un et l'autre. Voilà, ils avaient le même âge que moi, nous formions un trio à tel point que notre éditeur, qui était plein d'imagination, nous appelait les Trois Mousquetaires, Athos et Aramis sont morts. Reste une combinaison de D'Artagnan et de Porthos. Alors effectivement, tout à fait au départ, j'avais plutôt le format D'Artagnan, mal nourri. En évoluant, j'ai plutôt pris le format Porthos que j'entretiens chaque matin avec une petite heure de musculation dans une salle rue Sainte à Marseille.
Alors c'est très bien, vous me donnez l'occasion de poser cette autre question. Tous les deux, vous êtes des professionnels et des spécialistes de ce vaste empire qu'est le domaine des lettres et des arts. Est-ce qu'il y a des œuvres, films, livres, opéras ou des personnages qui rencontrent votre définition de l'amitié ainsi que ce que l'amitié commande dans vos vies et vos actions ?
Alors là, je vais reparler de la filia. Là, c'est le côté lettres classiques. Hein. C'est vrai que bon, cette dimension de l'amitié, on la trouve beaucoup dans la littérature antique. Achille et Patrocle, etc. C'est quelque chose qui, c'est un thème littéraire pas forcément très très contemporain, on va dire. Pensons que c'est des valeurs qui leur simple qui ont un peu perdu de leur prestige. J'ai oublié le début de la suite de la question.
Parmi les personnages fictionnels, parmi les œuvres, quelles sont ces œuvres et ces personnages qui rejoignent votre définition et votre goût pour l'amitié ?
Je parlais des héros homériques tout à l'heure, parce que je crois que c'est vraiment sans doute là où ça s'illustre le mieux cette filia dont parlent les Grecs. Je ne sais pas si c'est dans la littérature que j'ai trouvé le plus de modèles d'amitié.
Faut faire le prof un petit peu, hein. Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et ce que ça définit très bien, c'est que c'est irrationnel. Voilà, on n'aime pas quelqu'un pour des raisons. À la question, que ce soit l'amour ou l'amitié, hein, à la question « mais pourquoi est-ce que tu m'aimes ?», la seule bonne réponse, c'est « parce que tu es toi ». Avec l'ensemble de tes défauts, on aime d'ailleurs souvent les gens pour leurs défauts, ça c'est une évidence, pas du tout pour leurs qualités. J'ai rencontré des tas de gens qui avaient des qualités absolument admirables et dont je n'avais rien à faire. Voilà, c'est une constatation. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'alchimie. C'est une opération magique, comme les coups de foudre, etc. Et c'est aussi rare, finalement, que les coups de foudre. Alors, les coups de foudre, ça existe, on a tous vécu. Si vos éditeurs n'en ont pas vécu, il serait temps qu'ils s'y mettent, très franchement. Ça peut frapper à n'importe quel âge. Alors, ça peut aussi ne pas frapper. Moi, il y a un écrivain pour lequel j'ai une grande admiration, qui est Fontenelle. Fontenelle, jusqu'à 98 ans, n'avait pas connu l'amour. Il avait des amis très nombreux, parce que c'était un homme d'esprit, parce que c'était le plein 18e des salons, etc. Alors, il était ami avec tout ce qui comptait à l'époque. Et puis, il est tombé amoureux à 98 ans, d'une jeune philosophe allemande qui en avait 18. Et comme à 98 ans, il commençait un peu à faiblir de l'asperge folâtre, il a demandé à Diderot, ami intime, de bien vouloir coucher avec elle de façon à ce qu'il en jouisse à travers son ami. Un ami, c'est parfois quelqu'un qui couche avec la personne que vous aimez. Vous voyez, on est dans l'irrationnel le plus total. Dieu sait que Fontenelle était par ailleurs un homme de raison, etc. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Donc, il aimait beaucoup Diderot et d'Alembert et quelques autres. Je veux dire que nous vivons dans une période un peu saumâtre où on manque de Diderot, d'Alembert, etc., et de Fontenelle. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait irrationnel. C'est la part physique existe peut-être, mais c'est le principe même de différence entre l'amour et l'amitié. Elle vient pas forcément au premier plan. La part intellectuelle, oui, un ami, c'est quelqu'un qui que vous aimez écouter quand il parle et qui surtout sait vous écouter quand vous parlez. L'ami le plus proche que j'ai, donc 60 ans, ça fait un bail, hein, ça fait 60 ans qu'il m'écoute délirer. Et avec une petite mine du style « à moi, tu me la fais pas ». Voilà. L'amitié est faite essentiellement de non-dits. Ce n'est pas quelque chose qui se déclare, qui se clame, etc. On sait qu'on est amis, comme on sait qu'on est amoureux, avec les mêmes dégâts d'ailleurs dans certains cas, mais c'est rarissime. Voilà, faut bien comprendre, si il y a au micro là quelque part des gens qui ont des foules d'amis, affaire à vos amis dont vous avez des foules, une bouche empruntée au derrière des poules, hein, Cyrano de Bergerac, eh bien je n'ai pas des foules d'amis, je suis très content d'en avoir deux ou trois.
Nous arrivons au moment de la pause musicale. Pour cette pause musicale, Françoise, vous avez choisi de faire écouter My Favorite Things de John Coltrane. Vous écoutez Radio FM Plus 91 FM, Françoise Guichard et Jean-Paul Brigelli, deux amis de 25 ans, non pas en âge mais en durée d'amitié, sont au micro du fil du fer. L'une et l'autre se disent la place de l'amitié dans la construction de leur identité et le déroulement de leur fil du fer. Professeur agrégé de lettres modernes, Jean-Paul Brigelli, vous avez votre nom médiatiquement exposé depuis 20 ans, depuis votre premier essai sur l'école. Nous ne parlerons pas de votre combat scolaire, nous parlerons plutôt de votre combat scolaire que de manière furtive lors de cette série de 5 émissions. Je souhaite permettre la découverte de vos autres facettes en renvoyant à des fils de vos divers fers, à mes yeux plus propres, à raconter des démarches vitalistes de votre création. Durant cette série de 5 fils du fer, vous attestez, Françoise et Jean-Paul, de vos parcours. C'est entendre dialoguer votre créativité, Jean-Paul, avec celle de Françoise Guichard et vice-versa. Les créations portent témoignage de la motivation de leur créateur, de leur créatrice. Et c'est ça que je veux écouter de vous. Ainsi, Françoise, chez cet homme assis près de vous, il n'y a pas que le porteur de mauvaises nouvelles et le polémiste, comme on dit. Françoise, qu'est-ce qui fonde et fait perdurer votre sentiment d'amitié à l'égard de Jean-Paul depuis 25 ans?
Oui, bah alors là, je reprendrai ce que disait Jean-Paul tout à l'heure sur Montaigne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison objective à fonder ou à perdurer. Ceci étant dit, bon, c'est vrai qu'il y a une culture commune, il y a des références communes, on a été en prépa tous les deux. Bon, après, lui, il a trahi les lettres classiques pour les lettres modernes, mais bon, quand même. Donc, on a des références communes, on a lu tous les deux beaucoup de livres, c'est pour ça qu'on s'est bien amusés devant avec ses étudiants à faire des cours ensemble, parce que là, on était vraiment aussi au point que les frères pongistes, dont le nom ne me revient plus. Les frères Lebrun, merci. Voilà, c'est vrai que ça relevait un peu des frères Lebrun, nos cours communs. Donc, on a énormément de références communes, mais également musicales. Bon, on a beaucoup de goûts en commun. Hein. Bon, on a dit la littérature, la cuisine, on pourrait rajouter le rugby. Bref, des tas de passions communes. Autrement, on est quand même aussi dans le domaine, comme disait Jean-Paul tout à l'heure, de l'inexplicable.
Jean-Paul, qu'est-ce qui fait de la femme avec qui vous discutez depuis 25 ans votre amie ? Être de la même génération culturelle, partager une communauté d'histoire et d'engagement littéraire, politique, professionnel, personnel, partager, ce qui n'empêche pas les désaccords entre vous.
Nous avons le même langage. Ça, c'est absolument essentiel. Alors même que nous n'avons pas eu la même enfance, par exemple, mais nous avons quand même la même formation, nous avons le même langage. Je ne pense pas que des amis qui auraient des langages très différents pourraient subsister très longtemps. Nous nous comprenons, je dois dire très franchement, très souvent nous nous coupons l'un l'autre parce que nous avons compris ce qui se passait. Hein, nous fonctionnons vraiment, je sais plus, comme il y a un poème de Monterland là-dessus, nous sommes comme deux chevaux attelés à un même char, quelque chose comme ça. Ça c'est un premier point. Ensuite, elle cuisine très bien, ce qui me semble essentiel pour une femme, et je cuisine très bien, ce qui me semble essentiel pour un homme. Voilà, c'est un point comme un autre. Troisièmement, c'est une lectrice tout à fait remarquable, et je lui soumets systématiquement les manuscrits des petits pâtés, comme disait Voltaire, que je produis à droite et à gauche. Elle est parfaitement impitoyable. Un ami, c'est aussi quelqu'un dont on supporte les remontrances littéraires, et pourtant Dieu sait que les littérateurs sont susceptibles et ont le cuir tendre à ce niveau-là. Et un autre point, nous avons fait effectivement un certain nombre de cours en commun. C'est-à-dire que j'étais prof au lycée Thiers, à Marseille, et je l'invitais à venir faire le cours avec moi. Alors, je suggère à tous les enseignants qui pourraient nous écouter d'oser la même chose avec quelqu'un qui leur semblerait fiable, et ça donnait, alors ça c'est marrant parce que nous avons la même culture, nous avons la même approche des textes, et à l'arrivée, quand on se faisait une explication en commun, ça donnait pour regarder la métaphore au pongiste, des échanges d'une vivacité extraordinaire, parce que au fond, nous ne voyons pas dans la même littérature exactement la même chose. Voilà, elle est beaucoup plus dans le sens. La question qu'elle pose toujours aux étudiants, c'est que dit le texte ? Il faudrait expliquer à tous ces petits imbéciles que le texte ne dit pas ce qu'il a l'air de dire. Voilà, ça c'est le premier point. Et moi, je suis beaucoup plus dans le côté formel, c'est-à-dire comment le dit le texte ? Évidemment, c'est complémentaire. Donc, on était applaudis à la fin des 2 heures rituelles de cours. C'était le côté théâtral de l'enseignement qui était porté à son paroxysme. C'était un numéro tout à fait au point et totalement improvisé. C'est-à-dire que je l'appelais la veille pour lui dire, tiens, on fait un truc là-dessus. Parfois, dans certains cas, même, c'était pas indiqué au départ. Ça tenait à la spontanéité. Mais c'est un truc qu'on fait quand on est prof à un certain niveau. Par exemple, quand j'étais au jury du CAPES, quand on avait par hasard un trou dans l'emploi du temps, parce qu'il y avait un candidat qui n'était pas là, etc., on se faisait des explications de texte entre nous, entre membres du jury, en donnant un texte et en donnant très exactement 5 minutes pour réfléchir. et il fallait faire quelque chose qui vaille 18 au niveau du CAPES. Voilà, ce qui était pas très compliqué, en fait. Alors, bien entendu, on essaie de trouver des textes un petit peu sorciers, le type même que l'on ne donne pas à des candidats, parce qu'on est vraiment de mansuétude vis-à-vis des candidats, on sait qu'ils sont nuls. Bon, mais voilà, c'est un jeu. C'est-à-dire, si vous faites court et que vous ne savez pas que c'est un jeu, je vous plains sincèrement. Et de ce point de vue-là, nous avons beaucoup aimé jouer.
Nous en reparlerons dans un autre fil du fer avec vous. Tous les deux, vous avez étudié en classe préparatoire littéraire. Vous en lettres modernes, Jean-Paul, vous, Françoise, en lettres classiques. Est-ce que le fonctionnement de l'institution que sont les classes préparatoires à l'accession à l'École nationale supérieure, l'ENS, était propice, selon vous, à créer et faire perdurer des amitiés? On y travaille fort, avec tension et avec du chacun pour soi, peut-être.
Oui, honnêtement, je crois pouvoir dire que ça a été les plus belles années de ma vie. Mes années de prépa, les années les plus riches intellectuellement et culturellement, mais également affectivement, émotionnellement, parce que on est là, on est dans le bain, quoi. Mais l'avantage, alors je pense que dans les grandes parisiennes, c'est peut-être pas aussi vrai, mais dans une bonne prépa de province, il y a une émulation qui ne va pas jusqu'à vouloir tuer le voisin pour intégrer. Là, on fonctionnait plutôt en mode équipe, sport collectif. Et ça a été, oui, je pense que c'est une très bonne... Enfin, pour moi, ça, en tout cas, ça a été une très très bonne formation, d'autant que j'avais eu un cursus un peu particulier. Moi, contrairement à Jean-Paul, j'avais passé un bac scientifique et j'avais commencé mes études supérieures par un an de maths sup. Moi, j'arrivais des mathématiques où l'ambiance était, en prépa scientifique, n'était pas exactement la même. Et c'est vrai que ces trois années de prépa, même si contrairement à Jean-Paul, moi, je n'ai pas intégré, j'étais admissible deux fois à Fontenay. Et j'ai banané deux fois à l'oral. Mais franchement, si c'était à refaire, si j'avais l'occasion de rembobiner et de me retrouver en 1970 en prépa, c'est clair que j'y retournerais tout de suite.
En fait, c'est le modèle de ce qui devrait être fait depuis le cours préparatoire. C'est-à-dire une tolérance zéro, une très grande exigence au niveau du travail, une très grande complicité finalement entre les élèves, parce que contrairement à ce qu'on raconte, on ne réussit pas en écrasant les autres, on réussit en s'épaulant sur les autres. Voilà, ça c'est une évidence tout à fait simpliste, mais vraie. Et c'est vrai que alors là, je ne changerais rien. Je me revois très bien en Hippocagne. J'avais pas tout à fait 17 ans. En même temps, j'étais un champion de France de handball. Je militais beaucoup dans des organisations maoïstes. Je draguais énormément parce que c'était la première fois qu'on se retrouvait. Je parle d'époque antédiluvienne. C'est la première fois qu'on se retrouvait dans des classes mixtes. Jusque-là, on n'avait eu que des garçons ou que des filles. Et là, d'un seul coup, les phéromones trouvaient à qui parler. Voilà. Donc, j'ai trouvé un grand copain en Hippocagne, l'un de ceux avec qui j'ai beaucoup travaillé par la suite, etc., et qui est malheureusement décédé en 1993. Faut imaginer quand même l'ambiance, au milieu des cours de latin, nous échangeons des petits billets, tout le monde a fait ça en classe, dans lesquels nous évaluions les performances de tel ou tel rencontré la nuit précédente. Qu'on baladait à peine fermé, de façon à ce que tout un chacun puisse en profiter. Oui, c'était un peu... Mais c'était drôle, voilà. L'idée étant de faire circuler le billet de façon à ce que ça arrive devant la personne indiquée qui, au moins, savait quelle note elle méritait sur 10. c'est peut-être effectivement d'une délicatesse modérée, mais au moins on s'amusait énormément. Enfin, il faut bien que les gens comprennent ça. C'était très drôle. C'était une génération extrêmement drôle. Si en cours actuellement vous ne vous éclatez pas, si vous êtes des petits cons, voilà, ça, c'est une évidence. Hein. Nous sommes tellement bien épaulés que en Cagne, alors Dieu sait que vous savez, les écoles normales supérieures sont trustées par les grandes Cagnes parisiennes. Bon, on s'est retrouvé en Cagne avec 12 élèves qui ont intégré. C'est jamais arrivé depuis. Hein. Quand il y en a un ou deux, c'est champagne pour tout le monde. Mais 12, c'est-à-dire le tiers de l'effectif de la Cagne, a intégré l'une des 4 écoles normales supérieures. À l'époque, il y en avait 2 de garçons, 2 de filles. Tout ça a été regroupé par la suite, au nom de l'égalité supposée des sexes. Et nous sommes arrivés parce que nous avons travaillé ensemble. Dans les 3 derniers mois, même pas les 2 derniers mois, on s'est isolé dans la maison de l'une d'entre nous et nous avons bossé à 3 et nous avons réussi tous les 3. Voilà. Bon, la vie après a suivi son cours, mais c'est comme ça qu'on réussit. C'est pas en bossant comme un malade de son côté, etc. Non, c'est en échangeant des morceaux de musique, en se faisant une omelette parce qu'il faut bien bouffer d'un seul coup à 1h du matin, etc. Voilà, c'est ça. Hein, c'est la vraie vie cagnale.
Le bruit au cas où les auditeurs entendent un petit bruit de quelque de crac crac, c'est votre petit chien qui est en train de manger son nonos. dans les 2 minutes et quelques qu'il nous reste, voici ma dernière question qui finira par une conversation entre vous. Qu'est-ce que l'usage de l'amitié, comme l'écrivain et voyageur Nicolas Bouvier pratiquait son usage du monde, vous a fait découvrir de vous dans votre parcours de vie?
Alors, de nous-mêmes ou de l'autre?
Ah, je vous laisse répondre.
Comme Nicolas Bouvier, c'est la découverte de paysages successifs. Il ne faut pas s'arrêter à l'apparence extérieure. Il faut écorcher la peau et puis pénétrer dans l'âme.
Oui, alors il m'a volé ma réplique. Hein. Bon, oui, c'est à peu près l'idée, effectivement. Hein. Ce qu'on découvre de soi, bah, par moment, surtout quand les amis sont dans la panade, c'est qu'on est plus fort que ce qu'on croit. Ça, c'est comment dirais-je, les bénéfices imprévus des difficultés de la vie quand on voit des amis ou des amis, eux, en train de boire le bouillon et que même si soi-même on n'est pas forcément très très en forme, ben ma foi, on va trouver le jus pour arriver en disant « Tiens bon, je suis là !» Je crois que c'est ça, on est transcendé quelque part par cette amitié. Comme je disais tout à l'heure, on est fiable, quoi.
Ainsi s'achève ce fil du fer en compagnie de Jean-Paul Brighelli et de Françoise Guichard.